podcast.com. Essaye ça.
On va commencer le premier show de 2022. Bienvenue tout le monde à Terrain Basique. Mon nom est Tommy Godette. Est-ce que vous entendez en arrière? C'est un des jeux qui méritait le plus de se faire un remake de tous les temps. Et le remake est des milliards de fois meilleur. Là, c'était beaucoup, pratiquement impossible à terminer sans le Nintendo Power. C'était aussi beaucoup trop difficile comme jeu. Mesdames et messieurs, vous avez l'excellent Dragon Quest 2 comme trame sonore dans ce premier show de 2022. Je me suis dit, hein, deux, hein, vous pognez ça, toi, tu pognez ça, Andy Jacques, 2022, t'enlèves un zéro, tu fais x3, ça fait Satan.
C'est tout fait Satan, anyway, fait que tout, on vit dans le monde de Satan, son invention, sa création.
Hein. Et voilà.
Faut juste passer la 5MD pour pouvoir enfin se libérer du jeu.
Ouais, ça va vite.
Hein, on peut trailer vite là-dessus.
Ouais. Et sinon, ben, dans le fond, c'est Emmanuel ce soir qui a dit qu'il y avait de quoi jaser, hein, Emmanuel?
Devil, c'est-tu?
Hein, oui,
Devil,
de quoi tu vas nous jaser?
Écoute, je me dis, là, ça fait quelques fois que j'y pense, puis on a teasé un peu la fois que j'ai joué à Magic dans le Sud. J'ai regardé ce qu'on avait fait sur le sujet, puis Jason nous a expliqué un peu tous les formats de Magic. Si vous voulez retourner à l'épisode 4,
déjà.
Ça remonte à loin, il avait fait un petit survol des différents formats, puis après ça, plus tard, autour des épisodes comme 89, il avait refait un épisode sur les différents formats, mais c'est surtout des formats construits. Là, on se rappelle de Nightmare 99, puis des espèces de formats weird, là, où est-ce que tu prends juste des cartes de différents sets. Là. Mais c'était surtout du construit.
Hein?
Ouais, c'est ça. Moi, ce que je préfère dans Magic, c'est les formats de Limited, hein, les drafts et tout ça. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer sur les différentes façons de jouer en Limited, mais qui ne sont pas juste le draft classique qu'on connaît avec les boosters, les draft boosters là, qu'on appelle.
Trois boosters, on ouvre.
Trois boosters chacun.
À droite. Ouais,
exactement. Ouais. Ou les sealed là, qui sont très connus pour les pré-release et qui sont généralement sous format de sealed.
Fait sealed, que, ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est 6 boosters puis tu te fais un deck avec ça comme tu veux.
D'ailleurs, j'ai une question. Une question pour commencer.
Disons, Andy.
C'est quoi Limited? Je suis pas trop
certain. Dans le fond, à Magic, il y a comme deux façons principales de jouer. C'est en Constructed puis en Limited. Constructed, ouais. C'est que tu as accès à une liste de cartes qui peut être ciblée là, selon les différents formats standards, moderne, vintage, legacy. Okay. C'est des formats construits. Puis tu vas te faire un deck de 60 cartes. Tu vas te chercher les cartes que tu veux. Tu peux en avoir jusqu'à 4 généralement, à moins que tu joues dans un format où est-ce qu'il y a des cartes qui sont restreintes, que tu peux juste en avoir une. Là. Mais ça va être généralement ça. Fait que ça va être le deck classique de 60 cartes avec 20 quelques lands. Commander est aussi considéré comme un format construit parce que c'est un peu le même concept là, où est-ce que tu as accès à toute une liste de cartes que tu construis ton deck. Alors que dans Limited, c'est tu te fais donner, selon certaines contraintes, des cartes
un pool
spécifiques
de cartes.
Et tu te fais un deck avec ça.
La grosse différence, moi je te dirais, Andy, là, c'est que si tu joues limité, d'habitude, tu peux amener juste de l'argent à ton cerveau puis tes yeux. Okay, tes mains.
Exactement. Donc, moi, j'adore
le construit. C'est toi qui fournis les cartes de chez vous, puis tu prépares ton deck selon les règles qui sont décidées
tout
avec la gang. Avec pas de balance, hein, s'il vous plaît, on met jamais de balance.
C'est ça le concept, c'est que moi, dans le fond, depuis le début de Terrain Basique, je dis que j'aime pas faire des decks. Je suis donc un fan de limité.
Exactement.
Comme
c'est
Emmanuel,
pour ça que que tu as du fun quand tu viens nous voir pour faire des drafts.
Exact, puis que je garde les gardes et je les donne à tout le monde.
Parce que t'en as rien à battre. Là, oui, mais ça, ouais. ça fait partie du jeu, ça. Mais
c'est
donc,
dans le cas de la Tommy tout le temps. J'ai jamais été fâché, pas fâché à part contre Tommy.
C'est sûr, écoute.
Ça vient chercher un peu des côtés un peu différents de ton joueur de Magic intérieur. Là, comme, dans le construit, tu as tellement d'options, puis c'est de trouver, des fois, tu vas trouver une thématique pour te faire un deck, tu vas essayer de trouver la meilleure liste possible, etc. Là, en limited, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. En limited, c'est vraiment plus comme qu'est-ce que je vais réussir à faire avec les outils qui me sont donnés, qui sont limités, justement. Comment je vais m'en tirer.
T'sais. OK, cool.
Fait qu'il y a différentes façons de naviguer tout ça. Puis j'ai décidé d'explorer un peu les différents formats qui sont différents que du draft classique ou du sealed. Dans les formats, on peut, dans le fond, varier soit le contenu ou la méthode ou le jeu comme tel. La façon qu'on va jouer une fois que le draft ou la sélection des cartes aura été faite. Le plus classique dans là-dedans pour le contenu, pour comment varier la façon de jouer, dans un draft classique, tu vas y aller avec un set comme tel. Tout le monde va avoir trois paquets de ce set-là. Mais tu peux y aller wild avec ce qu'ils appellent le Chaos Draft.
Non.
Les Chaos Draft, c'est dans le fond, tu vas essayer de varier le plus possible. Idéalement, là, disons que tu vas avoir tous des paquets de sets différents.
Tous les joueurs, genre.
Donc, si t'es 8, qui est un pod classique là, pour un draft, avec 3 paquets chaque, ben, là, tu vas te ramasser avec 24 sets complètement différents. C'est comme l'idéal pour un Chaos Draft. Ça fait des drafts super intéressants parce que tu sais vraiment pas où ça peut s'en aller. Tu vas devoir te concentrer pas mal plus sur les bases, essayer de trouver comme les bonnes cartes toute seule, plus que d'essayer de trouver des synergies qui est plus possible quand tu draftes un set complet qui a été fait pour ça, ou est-ce que tu vas avoir une mécanique, mettons, qui se retrouve dans telle couleur ou dans telle paire de couleurs.
J'imagine que le power level doit être un peu plus bas aussi.
Exactement. Puis là, c'est là que tu vas trouver, ça se peut que si tu trouves une très bonne carte, elle soit vraiment bonne parce que le power unique de la carte individuelle va comme devancer tout ce qui est, tout ce qui est autour. Donc ça, c'est une façon intéressante. Bon, c'est un peu difficile de faire ça parce qu'il faut que tu trouves des booster packs d'un peu toutes sortes de sets. Mais
ça va bien quand tu es au magasin, en tout cas.
Ça va bien quand tu es au magasin. Là, moi, j'essaie, depuis qu'on a commencé à faire des drafts, j'essaie de me garder un paquet de chaque set qu'on a fait là, en préparation éventuellement. Sinon,
moi je veux être là, moi j'aime ça les drafts comme
ben
ça.
Ben c'est sûr que t'es invité.
L'effet chaos comme ça aussi, là, c'est pas mal cool de mettons là, qu'on fait une game de Kaldheim ou de whatever, tu sais c'est quoi les grosses bombes, là, genre, mais
exactement.
Là tu sais jamais, là, c'est capoteuse. Ben,
puis des fois tu vas essayer de te rappeler, oh c'est vrai, j'ai déjà drafté ce set-là, quelle mécanique qu'il y a là-dedans, OK? Puis là, ah, dans ce set-là, quelle mécanique qui pourrait peut-être bien aller avec. Mm-hmm. La mécanique de l'autre set, qu'est-ce qui pourrait bien aller ensemble? Fait que des fois, tu vas trouver des
trucs qui vont se... C'est rendu compliqué, manuel. Le méta, il faut essayer de le comprendre, puis le méta, quand c'est 24-7.
Il n'y en a pas, là.
c'est un peu comme tu disais, c'est que tu te rabats aux affaires de base, le flying, là,
c'est ça.
Les affaires très
l'évasion.
Très
genre,
c'est ça.
C'est quoi, tout à fait, le removal. Bread, ouais, c'est une façon de
le voir. Removal, evasion, aggro.
Puis dud.
Defense.
Non, c'était dud, là, mais.
Contrôle.
Dud.
Dud, D-U-D, c'est comme. C'est des cartes.
Prends la quoi?
Quasiment, là, mais tu sais, qui ont mettons, des bonnes stats, là.
OK.
Fait que ça, c'est une façon. Sinon, la façon la plus populaire, là, je te dirais, qui n'est pas le draft traditionnel, c'est le cube. Le cube, c'est sûr, vous en avez déjà entendu parler. C'est souvent, ben, mettons sur MTGO en ce moment, c'est le Vintage Cube qui est à la mode, là, qui est ouvert en ce moment. Sur Arena, ils ont sorti également leur propre cube, soit en version classique ou Tinkerer. Puis dans le fond, c'est une façon de faire... tu sors une liste sélectionnée de 360 cartes généralement ou plus là. D'habitude c'est au minimum 360 cartes et ça va être d'habitude en format singleton, fait que chaque carte revient seulement une fois et tu vas remettre toutes ces cartes-là qui ont été sélectionnées en paquet, comme dans, tu vas te faire tes propres booster packs avec ces cartes-là. Puis tu vas les ouvrir.
Ça bien comme faux, puis après ça, tu fais des piles de 15, genre.
Exactement. Ce que ça va faire souvent, c'est que tu vas pas avoir le même power level que d'une draft traditionnelle, parce que généralement, ça va être des cartes sélectionnées, par exemple, avec le Vintage Cube ou le Cube sur Arena. Tu vas ouvrir un paquet, puis ça se peut que tu aies 6 mythiques, 8 rares, puis 2 uncommon qui sont excellentes. Et généralement, ça va être sélectionné sous une thématique où ils vont essayer d'aller trouver des archétypes qui vont être inclus dans la liste du cube. Fait que la liste est vraiment... c'est rare que ça va être fait comme complètement au hasard. Là. Ça va dire, OK, il va y avoir tel archétype qui est possible, aller drafter tel autre. Fait que ça va être vraiment comme... balancé de façon à faire ça le plus agréable possible.
Genre 60 cartes d'artefacts, puis là, pour faire un deck de main, puis tu fais 60 cartes de loup-garou pour faire une affaire rouge-verte. Ou,
par exemple, des fois, tu vas essayer d'aller trouver des cartes qui vont peut-être fitter dans différents archétypes à travers tout ça.
C'est la même affaire que les autres, là, dans le sens que si t'as des lands multicouleurs, des non-basic lands, t'es mettre dans ton cube aussi, comme si c'était une de ces cartes-là. Puis là,
généralement,
c'est autant de basic lands que tu veux.
Généralement, dans les cubes, surtout les cubes high power, puis tout ça, le fixing, les lands multicouleurs, les mana rock, c'est très, très, très important. Là,
Faire un cube, ça doit être compliqué à faire physiquement.
C'est compliqué. Souvent, tu vas aller te chercher des proxys pour le faire. Okay. Mais comme je te dis, il n'y a pas de limite aux thématiques que tu peux utiliser dans ton cube. Fait que tu peux te faire un cube avec le draft chaff qui traîne chez vous, avec les restants de cartes qui traînent chez vous, faire un cube low-powered. Ça existe là, des listes de popper cube, là, qui c'est juste des communes, parce que tu vas aller trouver justement tes synergies là-dedans. Les cartes sont à peu près toutes du même level, fait que ça fit. Tu peux faire un cube tribal où est-ce que ça tu vas aller chercher différentes tribals,
les goblins,
les elfes, tout ça.
Ça doit aider aussi quand même pas mal, parce que là, si tu me dis, mettons, là, dans le sens que ça a l'air plus complexe pour quelqu'un qui connaît moins ça, tu sais, si t'arrives devant ton cube, puis là, t'as 6 mythiques, puis 8 rares, ben c'est un... Ouais. Ça fait de la lecture, là, ça en fait des affaires à comprendre.
Effectivement, là, tu sais...
mal la fois d'après, puis tout. Là.
Un truc comme le Vintage Cube sur MTGO, en ce moment, là, tu sais, c'est intimidant. Parce que tu regardes ça, puis c'est tout des gros hitters de l'histoire de Magic. Tu sais, quand tu te retrouves ton pack one, pick one, c'est Black Lotus, puis après ça, tu peux avoir Ragavan ou des nouvelles cartes. Fait que ça va vraiment là,
large,
de partout. Puis c'est toutes des grosses cartes, là, Primeval Titan, etc. Moi, ben, vendredi, je vais participer à un cube particulier qui a été sélectionné, qui s'appelle le Trash Cube. Quand on vous dit que ça peut être vraiment dans toutes les thématiques, c'est un streamer que je connais qui va faire ça. Dans le fond, lui, il a sélectionné sa liste. Il est allé voir sur 17 Lands, qui est un site classique d'agrégation de statistiques de draft et de cartes.
Pour voir comme... 16 Lands, Thomas. Rarement 17. Une fois de temps en temps.
C'est le nom du site.
Okay? Oh, ouais, mais ça avait l'air d'un statement aussi, au-delà d'être un nom. Là.
Ben oui, ils l'ont pas pris au hasard. Hein. C'est vraiment un site de statistiques. Et sur ce site-là, dans le fond, il est allé voir parmi tous les sites qui sont en standard en ce moment, les cartes qui ont les plus basses win rates de chaque set. Puis il a fait un cube avec ça.
que le meilleur des plus poches gagne.
Exactement. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça vendredi. On va,
c'est dans bien hâte.
On va voir. Je pense que dans tout le site, il y a comme deux removals. Puis, tu sais, c'est comme Eye of Beholder de AFR qui coûtait 6 pour faire -13/-13 à Sorcery Speed.
Ouais, ouais.
Puis,
on a beaucoup de Wall of Wood.
Puis l'autre, c'est comme Lacerate Flesh là, du dernier set qui est à Sorcery Speed aussi. Qui fait ben 5 ouais. Là, pour faire 4 dégâts. Fait que c'est genre le seul removal. Si je le vois, c'est sûr que je les prends. Mais encore là, c'est du singleton. Fait que tu le sais que si tu as cette carte-là, personne d'autre va l'avoir. Généralement, les cubes, c'est comme ça que ça fonctionne.
Voilà. Donc, journeyman only, on pourrait dire, pour les cubes. Faites attention.
Ouais, fait que voilà pour ce qu'il y en a du contenu. Mais là, il y a une nouvelle carte qui est sortie, qui s'est faite spoiler cette semaine. Ben, en fait, elle s'est faite spoiler un peu avant notre épisode de fin d'année. Mais je voulais garder le projecteur sur l'année 2021 plutôt que se projeter tout de suite vers 2022, mais là c'est le temps. Fait que ouais. Let's go, je pense que c'est le temps de la carte de la semaine. Ouais. Tommy.
Hey, bonne année tout le monde.
Ah, bon, bonne année. Oui, hein. On vous souhaite une excellente année 2022, toute l'équipe de Terrain Basique. Mm-hmm. Merci d'être avec nous. Et là-dessus, ça nous amène à la carte de la semaine, une présentation du pub ludique L'Adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est. On va aller écouter un petit beat à bone, puis on vient jaser de ça. Ça va être malade. Fait que là, on s'en va à terrain vraiment inconnu. Là. Moi et Andy, on sait pas tout de c'est quoi qui va se passer. Hein. C'est notre carte de la semaine, choisie par Emmanuel, un ninja.
T'aimes ça, toi, les ninjas, Tommy?
J'adore ça, j'en suis un.
Ben, moi aussi, humain. J'aime ça, les ninjas. Oui, mais ils sont généralement humains. Des fois, il y a eu des rats ninjas, etc. C'est Kamigawa qui s'en vient. C'est la dernière carte qui a été spoilée, qui a été révélée. C'est effectivement un humain ninja pour un colorless, un bleu, un noir, Satoru Umezawa, qui est une 2-4. Et à chaque fois que tu actives une ninjutsu habilité, on y reviendra, tu regardes les trois cartes du top de ton library. Tu peux en mettre une dans ta main et le reste en dessous de ton deck dans n'importe quel ordre et tu peux juste faire ça une fois par tour. Mais surtout, la ligne intéressante qui va tuer Magic, c'est que chaque créature dans ta main gagne ninjutsu pour 2 colorless, un bleu, un noir. Pour ceux qui ne se rappellent pas ce que ça fait ninjutsu, c'est que dans le fond, quand tu as carte dans ta main, un ninjutsu, tu peux la caster pour remplacer une créature qui est en train d'attaquer et qui n'est pas bloquée.
Fait que d'habitude, tu mets ça
et elle rentre en jeu en train d'attaquer.
Qui prend la place.
Fait que là, mettons,
t'attaques avec une mouche, un flying qui passe par-dessus les défenseurs de l'autre, mais là, la mouche,
le bloque pas.
Godzilla, parce que Satoru Umezawa, il a dit que la mouche pouvait être Godzilla pour 4 à la place de 11 pour avoir une
constance. Okay, fait que là, M'Racul vient de gagner ninjutsu.
Ouais, je comprends. Ça va faire peur à tout le monde, ça. Ça va faire peur à l'adversaire en esti, cette carte-là.
C'est un peu ridicule. Mais oui, ninjutsu, ça avait été sorti dans Betrayals of Kamigawa. Il y en avait ressorti quelques-unes dans Modern Horizon, le premier, puis des cartes de Commander. Fait que là, c'est une des mécaniques qui revient.
C'est quand même une 2-4 dorée. Tu sais, je veux dire, c'est une 2-4 rare, là. Ça aurait dû être mythique ou quelque chose de même.
Oh, bon, ça va être bien correct, Andy. Là,
ah ouais? Je sais pas.
Et là-dessus, là, Umezawa, c'est-tu celui qui a le jmu, c'est-tu?
Umezawa, c'est un clan de ninja. De...
Ok, ça fait que ça n'a pas rapport avec le Umezawa JT, l'équipement trop fort.
Non. C'est le même clan, en fait. C'est ça, c'est un clan de ninja qui est parti, je pense, par Toshiro Umezawa. Et puis, il a été comme banni sur Dominaria, où est-ce qu'on a retrouvé un de ses descendants dans le présent de Magic, qui était Tetsuko Umezawa, qui se promène en se faisant des portails à travers des portes.
Et puis si on s'entend, là, ton Tetsuko Umezawa, là, que 1-3, un bleu, un colorless, les créatures que tu contrôles qui ont un power ou un toughness de 1 peuvent pas être bloquées. C'est idéal pour après ça triggerer n'importe quelle habilité de ninjutsu que tu as dans ta main de manière sauvage et sans retenue.
C'est vrai.
Tout à fait.
T'es un assis capoté. Moi, en tout cas, ça fait longtemps que je vais me faire un deck de ninja, puis je l'ai comme déjà tout listé, puis tout. Mais là, je vais attendre que cette nouvelle série-là sorte. Hein,
ben, tu vas avoir une nouvelle, des nouvelles ressources à mettre dans ton deck de ninja.
You bet. Puis pour ceux qui se la demandent, non, je mets pas de Umezawa's JT là-dedans. J'ai mis un Umezawa's JT dans mes decks, puis c'est l'os des chiens dans mon deck de chiens. C'est dit. C'est ça qui se passe. Merci beaucoup, Emmanuel, pour la semaine hashtag spoiler. Ce qu'on va faire, c'est réécouter une tranche de beat à bonde puis aller jaser limité. Puis, c'est vrai ce que j'ai entendu dire?
Je sais pas, ça dépend.
Ah, OK, c'est bon, parfait, c'est bon. Je comprends.
Je nie pas, mais je... Mais c'est pas que c'est vrai.
C'est ça, je le considère. Moi, je pensais à ça, puis finalement, j'ai découvert que le meilleur monstre à faire en Ninjutsu 4, là, comme on parlait tantôt, là, n'importe lequel, là, c'est l'espèce de gros géant 10-10 Trample Infect.
Ah!
Fait que tu dis l'autre, c'est sûr. Il y a pas...
Et voilà.
C'est ça, on appelle ça le...
C'est coup, terminé. Voilà, tu viens de trouver une des façons de tuer Magic.
Au quatrième tour.
Au quatrième tour, oui.
Ben, il coûte 3, puis après ça, c'est Ninjutsu 4.
Ah ouais. Premier tour, tu mets un ornithoptère, puis c'est sûr qu'il n'y a personne qui va bloquer l'ornithoptère, fait que l'ornithoptère, ben, il va faire cric, 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 puis devenir le
gros. Ouais, mais ça te prend l'autre. Ça te prend quand même l'autre qui soit là.
Ben oui, ben, tu sors au troisième tour, Andy, on sait comment ça marche.
Surprise.
Ben là, man,
j'étais là. Ben oui.
Fait que ben je sais pas de quoi qu'on parle là, mais
avec fait que là cubes, oui, là, ben c'est oui, avec le cube, tout ça c'est dans le fond c'est des façons de changer le contenu de ta draft, hein, mais il y a aussi de différentes façons de jouer, puis c'est un peu là que tout ça est parti, c'est que je m'en allais dans le sud puis j'avais comme 6 paquets de 6 booster pack de AFR dans le temps, de Adventures of Forgotten Realms. Je me suis dit, on pourrait drafter ça, mais là, j'en avais juste 6. Puis, je me suis dit, on pourrait se faire ça, mais à deux personnes. Fait que j'ai regardé un peu les façons parce que, effectivement, il y a des techniques pour drafter à deux. La technique classique, ça marche plus ou moins, là, parce que tu te retrouves à ravoir ton paquet, le même paquet qui revient, tu sais,
tu sais
exactement, fait que ça manque un peu. Ben, tu vas finir par pas mal savoir qu'est-ce que l'autre va avoir, peu importe la technique, mais c'est pas pire de voir comment tu vas sélectionner les cartes, puis je vous ai trouvé 3 façons de drafter à deux. La troisième, qui est comme une espèce de combinaison des deux premières, là, vous allez voir. Dans le fond, moi, celle que j'ai faite, c'est de la Winston Draft qui s'appelle. Les 3 vont fonctionner toujours de la même façon. Tu vas te prendre 6 draft boosters, qui est l'équivalent que tu aurais pris si tu draftais. Et tu vas te faire. Tu vas toutes les ouvrir, idéalement sans regarder les cartes, hein, parce que c'est le fun de se garder la surprise, et tu vas toutes les mélanger ensemble pour faire une grosse pile de 90 cartes.
OK.
La Winston Draft, ça va se faire de la façon suivante. Tu vas faire 3 piles de 1 carte chacune face cachée. Donc, tu vas prendre les 3 premières cartes de ton tas de cartes, et tu vas les mettre face cachée une après l'autre, puis on va se dire que c'est les piles numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Jusque-là, ça va?
Moi, je comprends tout.
Le premier joueur va décider, il va prendre la carte de la pile 1, va la regarder, et il y a deux choix. Soit il la garde avec lui, il la prend, il la sélectionne, il la met dans son paquet de cartes, soit il la remet là, et il regarde la pile 2. S'il la remet là, il va rajouter une carte du tas de cartes sans la regarder sur la pile 1. Donc la pile 1 est rendue avec 2 cartes dessus. Il regarde la pile 2, décide s'il veut la garder. S'il veut la garder, ben, il la prend dans sa main. Sinon, ben, il fait la même chose. Il la remet là, il prend une carte du tas de cartes sans la regarder, il la rajoute sur la pile 2, qui va devenir avec 2 cartes dessus. Et puis il va regarder la carte 3, de la pile 3.
Yep.
Si encore là, il n'y veut pas, ben là, il n'y a plus de choix vraiment. Là, les 3 piles vont se ramasser avec une carte de plus et il va prendre la carte qui est sur le dessus du tas au hasard, puis il va le rajouter. Ouais, puis il va juste la drafter cette carte-là.
Là, il n'y aura plus le choix. Là, à un moment donné, il faut que tu fasses la limonade avec des citrons. Là,
c'est le joueur B va faire la même chose en commençant par la pile 1 qui là, est rendue avec deux cartes. Dont une des deux que le joueur A a vue, mais l'autre, ouais, il l'a pas vue. Ça se peut qu'il la garde, ça se peut qu'il décide « Ah non, c'est deux cartes vraiment pas bonnes, il va la remettre là, rajouter une carte, regarder la pile 2. » Là, ça se peut qu'il décide de la prendre, fait que là, il va la prendre, il va rajouter une nouvelle carte sur la pile 2 qui va être rendue à juste une carte. Fait que là, ouais, il va avoir des piles comme ça qui vont se ramasser avec plus de cartes, fait que ça se peut qu'elles deviennent de plus en plus tentantes à ramasser, même si les cartes étaient peut-être moins bonnes au début.
Juste pour faire sûr, là, ouais, mettons, je check la pile 1, puis là, ouais, je veux pas la carte qui est dans la pile au début. Là, j'en mets une par-dessus. Là, je check la 2, puis mettons, quand tu choisis une carte dans une pile, tu la remplaces par une autre tout de suite.
Tu prends toute la pile.
Ah, tu prends toute la pile?
Tu prends toute la pile, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui arrive. C'est que tu prends la pile au complet.
OK.
Fait que les piles deviennent de plus en plus alléchantes si... Ben au fur et à mesure que le monde les prenne pas, tu sais.
Mais si tu prends la carte et il y en a juste une, il faut que tu la remplaces avec une autre carte.
Tu vas toujours la remplacer.
Pas tout le temps qu'il y ait trois piles jusqu'à la fin.
Exactement, oui.
Il y a peut-être une question.
Ouais.
Ça vient d'où ce nom-là?
Je n'en ai aucune idée. Ça vient de
Winston Churchill, ouais, en 1934, qui...
Il a joué à
sa fameuse citation. C'est pas parce qu'on est deux qu'on peut pas drafter.
Mm-hmm. C'est ça. Il était tranché.
We will refuse first pack and we will refuse second pack and we will win on the third pack.
Dit-il en fumant son cigare.
Mm-hmm. En étant généralement pas super.
Fait que c'est une façon de drafter quand même assez intéressante. Il y a des ça garde, je te dirais que c'est dans toutes les techniques ce qui se rapproche le plus de la draft traditionnelle, parce que tu vas avoir à peu près les mêmes choix que tu vas prendre. Tu vas à peu près voir les mêmes cartes que ton adversaire a pris. Là, tu vas avoir à peu près les mêmes informations, parce que quand tu fais un draft traditionnel aussi, là, tu vois les cartes passer, fait que tu peux te rappeler un peu qu'est-ce qu'il y avait dans les paquets.
Mais
que toi, t'as pas sélectionné.
Par exemple,
là. Oui, mais tu vas avoir à peu près la même quantité d'informations connues et inconnues que dans un draft traditionnel.
Et d'une manière ou d'une autre, tu finis tout le temps avec un gros paquet. Chacun finit avec un gros paquet à la fin. Là,
oui, c'est possible que, en fait, ça va souvent arriver que quelqu'un va avoir moins de cartes que l'autre ou plus de cartes que l'autre, mais c'est à peu près impossible que tu te ramasses pas avec un deck de 40 cartes, là, ouais, incluant, ouais, les lands.
C'est ça qu'il faut, mettons, plus que il faut que la qualité soit quand même un petit peu pareille et qu'il y ait un effet, exact, surprise aussi au final. Là.
Ben, c'est ça qui arrive. Tu vois, moi, je jouais contre mon ami Sébastien, puis lui, il se ramassait peut-être, disons, il y avait 10 ou 12 cartes de moins que moi. Fait que moi, j'avais plus de choix, mais lui, ses cartes étaient meilleures. Fait que ouais, son deck a fini à peu près égal. Fait que ça s'équilibre tout ça ensemble. Le hate drafting devient quand même assez intéressant quand tu joues à deux aussi. Là, faut le mentionner. Là, moi, j'ai viré un Westgate Regent, la 4-4 flying un peu trop forte. Puis c'était pas vraiment dans mes couleurs, mais je voulais pas m'en faire jouer d'en face, fait que je l'ai ramassé tout de suite. Là,
et puis là, veux pas, tu joues à deux, fait que tout ce que toi t'as pas, l'autre il l'a. Fait que effectivement, ça, le hate draft devient un petit peu plus stratégique. Ah, oh, là, voilà. Là, c'est fini, il n'y a plus d'autres sortes de limités, c'est sûr.
Eh non, il y en a tout plein. Hein. Ah. Encore, si vous êtes seulement deux, il y a aussi une autre façon de jouer qui s'appelle le Solomon Draft. Ça part de la même façon, on prend nos 6 booster packs, on les ouvre sans trop regarder, on les mélange, on fait une pile avec une grosse pile, et puis là, au hasard, on va déterminer, disons, le joueur A puis le joueur B. Ou le joueur 1 ou 2. Et le premier joueur va piger 8 cartes, les 8 premières cartes de la pile, et va les séparer en deux piles. De son choix, c'est lui qui sélectionne où est-ce qu'il met quelle carte, et c'est pas obligé d'être 4-4. Ça peut être 2 et 6, 3 et 5. Là. Ça pourrait être 0 et 8.
Non, ben là, non.
Une drôle d'idée, là, ben.
Ouais, c'est ça.
Parce que, après ça, l'autre joueur, lui, va regarder les cartes et choisit la pile, une des deux piles, et l'autre se ramasse avec la deuxième pile.
Hey, dude, ma mère a tout le temps dit, mettons, là, c'était de partager de quoi entre moi et un de mes frères, là. Ma mère, elle disait, celui qui coupe l'affaire en deux, c'est pas le même que celui qui choisit. puis ça finissait tout le temps bien.
C'est ça. Celui-là, je ne l'ai pas essayé, mais ça m'a l'air super intéressant. Ouais,
quand même.
C'est sûr que ça.
J'imagine
que
c'est l'autre qui choisit après ça les 8 cartes.
Exactement. Puis là, tu alternes les rôles de celui qui prend les 8 cartes puis fait les piles.
Ouais, je trouve que c'est le fun, ça. Ouais, je vois le potentiel intéressant.
Ben oui. Puis nous autres, on a gagné à Sullivan, justement. Puis ça s'appelle le Sullivan Pabo.
Solomon.
Solomon, comme le roi.
Exactement.
Le roi qui a béni.
Non, moi, je vais avec Sullivan, là, vous connaissez rien.
Mais je trouve que celle-là, c'est le fun, même, ça en est presque un jeu. Ouais. Tu sais, comme le Solomon est comme presque un jeu lui-même, parce que
c'est
comme...
Exactement. C'est ça que j'ai remarqué aussi en regardant les différents formats, c'est que des fois, tu peux rendre la draft quasiment aussi intéressante le jeu là, lui-même. Solide déjà, là, moi je trouve que la mécanique de drafter, je trouve ça super intéressant. Ouais. T'as toujours plein de petites décisions à prendre, essayer de construire
ton deck. D'avoir le gros monstre vert qui va compléter ton kit, fait que là, tu mets, mettons, deux cartes d'un bord, puis tu le mets dans la pile de deux, parce qu'il va vouloir les c'est ça autre.
Là, tu vois toutes les cartes que tout le monde sélectionne aussi, là, fait que ça peut influencer tes décisions, tout ça.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une des affaires le fun du draft. Là. Des fois, tu as ton deck, tu sais que ça va revenir à un moment donné, fait que tu espères que tu as deux choix, puis tu espères que le deuxième choix, personne ne le prend pour que tu reviennes.
Ouais. Ou tu vas dire, OK, c'est laquelle qui a le plus de chances de revenir.
De revenir à
la
maison.
Tu vas la laisser là, ouais. Et puis le Winchester Draft, c'est un espèce de mélange des deux, vous allez voir, là, ça part de la même façon encore.
Qui c'est qui choisit les noms de ça?
Je sais pas, ça a dû se faire à Winchester la première
fois. Ça doit être les écrivains de Supernatural, parce que tous ces mots-là, ils étaient tous dans Supernatural.
Ah, bon, peut-être.
Fait que tu mélanges tes 6 booster packs ensemble, tu t'en fais une grosse pile, et là, tu vas faire 4 piles avec la face ouverte, donc la 4 piles de 4 cartes face vers le haut que tu vas voir, et là le joueur A va prendre une des piles.
Ah, oh, le joueur A, je l'haïs!
Et puis ensuite va rajouter une carte face ouverte toujours sur les piles qu'il n'a pas choisies et va mettre une carte dans la pile qu'il vient de choisir. Donc là tu vas avoir une carte toute seule, puis deux piles, puis 3 piles de 2 cartes.
Ok.
Après ça, ben, le deuxième joueur va sélectionner, ça se peut qu'il reprenne la première pile, mais il va toujours remettre une nouvelle carte sur chaque pile qu'il n'a pas choisie. Donc ça se peut qu'il prenne des piles à 2 cartes. Là, il va mettre une carte sur la pile qu'il en avait une, puis une carte sur les deux autres qui vont se ramasser avec 3 cartes, et il va mettre une carte toute seule à côté. Donc là, tu vas toujours avoir des piles qui vont devenir de plus en plus alléchantes, mais tu vois toujours toutes les cartes qui sont là.
C'est ça, la grosse
différence. Tu prends vraiment des décisions éclairées. Ben, c'est ça, c'est que ça fait une espèce de mélange des deux, où est-ce que tu as des paquets de cartes qui vont monter, descendre, mais tout est révélé, fait que c'est comme la deuxième.
Ballon chasseur.
Pareil. Fait que voilà, c'était les façons de drafter à deux. J'ai d'autres façons, si vous voulez, d'autres techniques rapides.
Ben oui. Bon, je pense qu'on a le temps pour...
On est dans la version face-up draft, là, justement, où est-ce que toute l'information est révélée. Il y a des façons de drafter qui peuvent justement rendre le côté draft un peu plus complexe ou plus long aussi. Des fois, on va se le dire, là, vous pourrez en juger. Il y a le auction draft qui existe. Le nom le dit pas mal, qu'est-ce que ça va être, là. Dans le fond, tu vas faire un draft traditionnel. Là, on revient à un pod là, de 8 personnes. Idéalement, tu vas rajouter un paquet de plus ou deux peut-être là, par personne qui draft. Fait que tu vas avoir plus de cartes. Tu vas encore une fois là, toutes les ouvrir, toutes les mélanger ensemble. Et puis, chaque personne reçoit, disons, 100$. Là. Tu peux donner des chips de poker, de l'argent Monopoly, peu importe. Hein, l'équivalent de 100$. Tout le monde a le même argent pour miser au début. Et il va y avoir une personne qui a été sélectionnée comme dealer, disons. Là. Tu peux lui donner un toutou de Nicole Bolas ou whatever pour l'identifier. Et le dealer va, à chaque ronde, va se promener là, vers le joueur qui est à sa gauche, et ainsi de suite, là, en suivant les horloges, les aiguilles d'une montre. Puis, le dealer va virer les 3 premières cartes de la pile et va avoir une mise de départ de 0$. Donc, si jamais il n'y a personne qui mise sur ces 3 cartes-là, c'est le dealer qui part avec.
OK.
Mais après ça, ça suit la ronde de mise. À partir de la première personne à gauche du dealer, peut décider de mettre, disons, ah, moi, je veux, pour l'ensemble des trois cartes qui ont été virées, ah, moi, je vais mettre une pièce là-dessus. Après ça, la personne à sa gauche a le choix soit de surenchérir, donc mettre 2$, 3$, ou de passer. Une fois que tu passes, tu es hors de la ronde, tu ne peux pas revenir jamais. Okay. Hein? Puis là, on va faire le tour de la table comme ça. Ça se peut qu'on fasse plusieurs tours de table, tu sais, s'il reste deux personnes qui continuent à se hors de bider pour ramasser les cartes. Mais il faut garder en tête que tu as un 100$ pour finir ton deck. Et que tu peux pas dépenser 60$ pour trois cartes. C'est ça. Ça se peut que tu te ramasses avec pas grand-chose à la fin.
Ouais. Moi, j'ai compris ce bout-là. Ah, mais là, on disait tantôt que juste le draft devient un jeu. Là t'as carrément une soirée là, pour
draft. Absolument. Ouais, tu te réserves quasiment une soirée pour le draft puis une soirée pour jouer avec les cartes. J'ai trouvé ça intéressant dans l'article que j'ai lu sur les auction drafts. Il disait, ben, à partir de là, toi, t'as un montant de base, tu peux jouer avec ça, puis tu peux rajouter des rôles ou des personnages, disons. Il suggérait, par exemple, en jouant sur le montant de base, il disait des personnalités de Magic, par exemple, t'as le Gideon que tu peux avoir, qui lui part ben, avec 110$ au lieu de 100. Puis chaque pile qui... Ou est-ce qu'il y a un white creature dedans? Là, ça va coûter 1$ de moins s'il veut bider dessus.
Ah, il y a un petit bonus pour le
Teferi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est cool. Teferi, lui, start avec 90$. Fait qu'il y a moins d'argent, mais à n'importe quel moment, il peut décider de regarder les 9 prochaines cartes dans pile. Fait que tu sais, il peut décider de prendre.
Ouais.
Une décision éclairée. Il y a moins d'argent à dépenser, mais il peut, vu qu'il contrôle le temps. Hein.
Puis toutes les variétés après, là, tant que tout le monde se met d'accord sur le pouvoir avant de commencer.
Ouais, ben ça, c'est ça, tu sais. Tu peux avoir. Il suggérait Chandra qui sort avec 110$, avec un peu plus d'argent. Puis, mais elle gagne 1$ à chaque fois qu'elle gagne une auction où est-ce qu'elle a eu le premier bid du round.
Ah.
Fait que ça comme l'encourage à dépenser plus d'argent. Ah ouais. Un peu la même chose avec Obnixilis. Lui, il commence avec 130$.
Oh, money. C'est...
Mais il ne peut jamais miser plus que 5$ sur un bid.
Oh.
Puis là, on fait quoi avec l'argent qui reste à la fin?
Ah, ben, tu
l'as mal géré.
Ouais, c'est ça. ça peut rendre les choses une fois que t'as fait le tour, là, si t'as fait plusieurs auction drafts et tu trouves ça le fun, là, tu peux épicer les choses en faisant tes propres rôles puis
gager cool.
Tout ça. Ouais, c'est cool. Là, tu peux même rajouter un meurtre là-dedans, puis là, ça devient une soirée meurtre
et oh, voilà, oh, let's go.
Unchained Jout.
Une autre façon de drafter qui va parler à nos amateurs de hockey peut-être qui nous écoutent ou ceux qui sont habitués de faire des pools de hockey ou des fantasy draft, là, peu importe. Ça s'appelle le rotisserie draft, là, comme une rotisserie. Là. Où est-ce que, dans le fond, ça, souvent, ça va jouer avec un set de cartes déterminé. Ça a été inventé, je pense, par Mark Rosewater qui a fait ça dans le temps. Lui, il faisait ça. Tu prends comme un set complet. Disons, si tu as accès à toutes les cartes, OK, on prend Midnight Hunt ou Crimson Vow, ou on pourrait même prendre les deux ensemble. Puis chaque carte du set, il y a un exemplaire. Okay. Ils sont toutes là. Imagine-les qu'ils sont toutes...
Quand tu draftes un set en entier, Emmanuel, t'es capoté.
Ça marche bien en proxy. Là,
Oui, tout à fait. Puis imagine là, qu'ils sont toutes là sur la table, une à côté de l'autre, là, toutes bien placées de 1 à 3 à 277, ouais. Là, peu importe. Et on va déterminer un ordre de repêchage. Comme au repêchage de la Ligue nationale, Tommy, t'es le premier, moi je suis le deuxième, Andy, t'es troisième. Et puis, une fois que tout le monde a passé de 1, 2, 3, ben on va repartir, mais de l'autre bord. Fait que 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, comme ça. Puis on va sélectionner les cartes à travers toutes les cartes qui sont disponibles. Fait que ça fait vraiment... c'est là que tu vas essayer de trouver des façons. OK, où est-ce que je veux m'en aller? Où est-ce que je veux peut-être bloquer quelqu'un? Où est-ce que j'essaie de peut-être pas trop montrer mon jeu tout de suite, repêcher des cartes qui pourraient aller dans plusieurs archétype. Ça devient très intéressant.
Je fais mon manifesting là, puis caller out tout de suite les couleurs que je vais prendre, puis ce genre de patente.
Exactement. C'est quelque chose qui se fait très bien si vous êtes des habitués, disons, du Vintage Cube ou de ces listes-là. C'est justement, c'est parfait à faire avec des listes comme un Vintage Cube où est-ce que tu finis par connaître pas mal toutes les cartes. Faut être familier là, avec les cartes, là, c'est pas le temps de lire les 360 cartes une après l'autre. quand ton tour est venu pour repêcher, là, parce que c'est déjà un processus assez long, là, on s'entend. Fait que, ouais. faut que tu saches un peu où est-ce que tu t'en vas, mais je trouvais ça intéressant. Fait que c'est différentes façons de peut-être épicer vos drafts.
Ben nous, on a inventé un, dans le fond. Par erreur, quand j'ai acheté la boîte de Deluxe, on s'est tous ouvert un paquet de Deluxe, puis après ça, on a drafté. On savait déjà à peu près les cartes qu'on voulait.
Ça a
comme changé un peu la dynamique de notre draft.
C'est vrai, tout à fait.
C'était pas plate, là.
Non, absolument pas. Puis ça faisait des decks qui étaient peut-être un petit peu plus... plus de power,
meilleure sélection.
Ouais, c'est cool. Ouais.
On avait fait ça, nous autres aussi, à ma job à un moment donné. Ben, souvent, pas mal toutes les parties de job ont fait un draft de Magic. Puis là, on était juste assez pour que, mettons, on aille 4 boosters chacun. Fait qu'on s'est dit, on va nous ouvrir un 4e booster à la fin. Puis on a fait un draft avec 4 boosters. C'est que je les ai torchés. Hein.
Chris. Ouais, je sais qu'il y a des endroits aussi, ils font des drafts où est-ce que d'une semaine à l'autre, tu gardes le même deck, mais tu
rouvres un booster.
Tu rouvres de nouvelles cartes, puis tu continues tu build up. Là,
ça devient un side deck encore plus.
Puis là, tout le monde autour le savent ou que t'es. Ah, mais ça, j'aime ça. J'aime ça. Parce que souvent, quand tu finis un draft, t'as comme un ou deux héros obscurs, puis là, tu sais, adieu. Merci beaucoup. Moi, je me rappellerai tout le temps le premier. Sealed. Ouais, c'est un Sealed qu'on avait fait à l'Abyss. Puis. J'avais deux octo-prophètes dans mon une pieuvre, là, genre un bleu, trois colorless.
Scry 2 3, quand t'as rentré en jeu, je pense.
C'est un monstre 3-3 standard que tu scry 2. Puis Chris, ça a été mes héros obscurs. Mes octo-prophètes sont encore accrochés. Je les accroche au sommet de ma banquette, ça, là, toutes les cartes. Là, comme d'ailleurs le demi-elfe, il est taqué là avec un scrotum en plastique dessus. Là, parce que je pardonne pas encore, mais il m'avait fait gagner quand même. Hey, ça fait là, vous en rappelez-vous? Qui c'est qui avait gagné toutes ces games?
Je suis pas sûr qu'on l'a su.
Emmanuel, en limité, est-ce qu'il y a des formats pour les groupes dans le sens, tu sais, quand on joue en équipe ou quand on joue à plusieurs?
Oui. C'est les bouts que j'ai moins regardés, mais effectivement, dans le fond, et puis j'ai une boîte qui nous attend quand on va pouvoir recommencer à drafter de Commander Legends. Qui est une façon de drafter pour jouer et tu joues à Commander après, fait que c'est fait pour faire après ça des games multiplayer. Puis aussi un set qui est sorti dans le temps, ça s'appelait Conspiracy, qui était fait pour faire des drafts multiplayer. Dans chaque paquet, il y avait des cartes qui s'appelaient des Conspiracy, qui changeaient un peu comme la ta façon de drafter, qui étaient comme des cartes out of the game. Là. Mais je me suis pas trop penché sur la question, mais ça existe. Oui, okay. Tout à fait. Okay. Tout à fait. On pourra peut-être en revenir en parler quand on aura drafté la boîte de Commander Legends.
Moi, j'embarque. C'était le plan. J'aimerais ça essayer ça. J'ai jamais essayé Commander. Fait que, tu sais, pour de vrai, je suis vierge de Commander. Fait que,
ça, c'est rendu construit puis compliqué construit en plus, là. Commander, c'est.
Ça n'est pas à quel niveau, mais oui.
Ouais, ben, il en vend des decks préconstruits, Andy. Ouais, là, je veux dire, c'est parce que c'est singleton qu'un Commander, puis t'as besoin de 100 cartes dedans. Fait que c'est à peu près 62, 63 spells à la place de. Fait que c'est. Puis tu peux
différent, pas... là.
Ouais, c'est ça, ça devient différent. C'est un petit peu plus de job de construction Commander.
Non, mais si tu dis que t'en as un d'affaire de draft Commander Legend.
Draft Commander, ça j'embarque en tout cas. Écoute, moi je suis tout à willing pour me faire pétaille la Magic. Hein, on pourrait dire ça comme ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça va faire la fin du dossier pour cette semaine. Merci beaucoup, Andy, d'être joint à nous. On vient de faire un terrain basique, mesdames, messieurs. Un gros merci à Martin Godette de podcast.com qui s'occupe du montage. C'est quand même quelque chose d'assez important. Merci à Bone qui nous fournit des beats. Merci aussi à Spotify parce qu'on est là-dessus. Et peut-être qu'on pourrait dire merci à l'adversaire aussi. C'est sympathique. Allez voir ce 4303 Sainte-Catherine-S. Mon nom est Tommy Godette. Je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins menace possible.
Membre de la famille H2O Web Media.